à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Vous avez sans doute remarqué ce chien qui sent l'arrivée de son maître bien avant qu'il soit arrivé chez lui. Ou avez-vous entendu parler de ces éléphants qui pressentent un tsunami avant que l'événement climatique ne se produise? On appelle cela le sixième sens animal, mais existe-t-il vraiment? Et si oui, comment l'expliquer? Quels sont les organes qui permettent ce sixième sens? Et nous autres animaux humains, sommes-nous dotés de cette forme de pressentiment? L'intuition est-elle une forme de sixième sens? Et si oui, comment l'expliquer rationnellement sur des bases scientifiques? Éléments de réponse ce matin. Bonjour Gonel Boulet.
Bonjour.
Vous nous proposez chaque mercredi votre chronique Ma vie de parent. Au menu ce matin?
Aujourd'hui, j'ai décidé de faire flipper tous les parents en leur rappelant que, bien sûr, tout se joue avant 6 ans.
Merci beaucoup, hein, cette période anxiogène.
Ouais,
hein, c'est très sympathique.
Bien faire ça.
Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, ta vie quotidienne mode don.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Comme la plupart des animaux sauvages, ces éléphants ont tous survécu. Ils ont ressenti le séisme et se sont enfuis bien avant l'arrivée des premières vagues. Comme alertés par une sorte de sixième sens, les éléphants très agités ont pris instinctivement la fuite dans les montagnes. Les cornacs n'avaient jamais entendu de tels barrissements. Certains animaux sont même parvenus à briser leurs chaînes.
Bien avant l'arrivée des vagues, les éléphants ont commencé à courir. À l'évidence, ils savaient qu'un raz de marée allait se produire. Nous avons tenté de leur faire faire demi-tour, mais ils étaient incontrôlables. Et après quelques minutes, nous avons vu une énorme vague et nous avons couru vers les montagnes.
Extrait du JT de France 2 en 2004, autour de nous pour évoquer ce supposé sixième sens animal et humain, Yolaine de la Bigne, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, écrivaine, vous avez dirigé l'ouvrage collectif Les intelligences animales, dernier ouvrage paru chez Le Duc, Zéro souffrance animale avec des préfaces de Yann Arthus-Bertrand et Didier Van Kovelaert. Tiens, à propos de souffrance animale, certains animaux ont-ils le pressentiment de leur propre mort? Je pense évidemment aux animaux qui sont destinés à l'abattoir. Que nous dit la science?
Je pense que, alors c'est vraiment un domaine où on travaille, hein, on n'a pas encore, on est en plein, et même sur le sixième sens, on en parlera parce qu'en fait, il y a beaucoup de sens différents. Mais a priori, il semble évident que la plupart des animaux sentent leur mort arriver, pour une question d'ailleurs assez logique, c'est qu'ils sont très pragmatiques, eux, il faut qu'ils bouffent tous les jours, il faut qu'ils survivent. Donc, ils développent évidemment une sensibilité au danger et à la mort évidente. On le voit par exemple avec les chevaux sont des animaux d'une intelligence émotionnelle absolument incroyable, ils ont développé l'intelligence de la proie. C'est-à-dire qu'ils savent, ils regardent, ils ont un regard à 360 degrés et ils regardent, ils savent percevoir le moindre mouvement dans la nature, à partir de là, ils perçoivent les énergies, et c'est pour ça que ce sont des animaux de peur qui fuient au triple galop dès qu'ils sentent un danger. Donc la plupart des animaux, et c'est pour ça d'ailleurs que les chevaux, on travaille beaucoup avec eux pour soigner les gens violents. Je ne sais pas si vous avez vu le fameux film Nevada, qui est un film magnifique que je conseille à tout le monde de voir, où ça se fait d'ailleurs en France aussi. Hein. Moi j'ai une amie qui travaille, qui emmène des chevaux dans les prisons et qui obtient des résultats assez extraordinaires parce que le cheval perçoit la violence, perçoit l'agressivité et arrive à calmer les gens. En fait, il est presque au courant de votre état psychique plus que vous-même. Et du coup, ça devient un animal thérapeutique extrêmement intéressant. Alors, toujours sur la perception de la mort, ce que je trouve très intéressant, mais là aussi, on est vraiment au démarrage de beaucoup de recherches, c'est que on se rend compte souvent que les animaux, ils se battent, ils se défendent, puis à un moment, ils lâchent prise. Vous voyez souvent, quand on voit une antilope qui se fait choper par un lion, elle est là, elle court, etc. Puis à un moment, boum. Et derrière, il y a un terme, je me souviens plus de ce terme, qui, à un moment, elle lâche prise, elle sait qu'elle va mourir et c'est pas la peine de... Et on l'a constaté, pas mal de spécialistes des dauphins le disent aussi. On se dit parfois, les dauphins ou les cachalots, des animaux qui pourraient se défendre, se laissent finalement tuer, d'une manière souvent, on l'a vu avec les îles Féroé, le fameux scandale, là, il y a eu pas très longtemps, des fameuses chasses des îles Féroé, chasses soi-disant traditionnelles, qui sont absolument épouvantables. En fait, avec des bateaux et des filets, ils rameutent les dauphins et ils les tuent à coups de couteau dans une espèce de bain de sang complètement barbare. Et en fait, souvent, on s'est dit, on a l'impression qu'à un moment, oui, ils lâchent prise, quoi. Ils se disent, bon, à quoi bon, finalement, ça fait partie aussi du cycle, ça fait partie de la vie, et ça c'est assez étonnant, je sais pas, on pourra peut-être en discuter là-dessus. Et l'autre chose que je voulais dire sur le sens de la mort, notamment des animaux de rente, les animaux qui sont malmenés dans les stabulations, etc. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est pas très connu en France, qui s'appelle Temple Grandin, qui est une femme autiste aux États-Unis, qui est très connue aux États-Unis parce qu'elle a écrit un livre où elle s'est sortie de son autisme. Maintenant, elle est professeure dans les facultés, elle fait des conférences partout, etc. Et elle a beaucoup développé le fait que les autistes, par rapport à nous, ont une communication très proche des animaux. Elle dit qu'un autiste, c'est à mi-chemin entre l'humain rationnel que nous sommes et l'animal, et elle sent des choses. Et cette femme, elle travaille dans les abattoirs, parce que justement, elle a été dans les abattoirs et elle a perçu la souffrance des vaches qui paniquaient à l'idée de mourir. Donc elle savait très très bien, elle a vu avec le rythme cardiaque qui augmentait, etc. Et elle a développé des choses très simples dans les abattoirs, par exemple, au lieu d'avoir un couloir, le fameux couloir de la mort avec souvent des angles droits où les animaux paniquent parce que c'est pas dans leur nature, elle a fait des couloirs en rond pour que la vache suive le troupeau tranquillement et sans s'en rendre compte aille mourir et que ça passe mieux. Donc pour répondre rapidement, en effet, je pense qu'ils ont le sens de la mort.
Bonjour Benoît Grison.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Vous avez publié Les portes de la perception animale chez Delachaux et Nisley. En quelques mots, qu'appelle-t-on sixième sens animal? Est-ce que c'est un concept scientifique bien établi? Expliquez-nous un petit peu, Benoît Grison.
Bah écoutez, sixième sens, c'est une notion du langage populaire. En réalité, la science qui réenchante souvent le monde sur une base rationnelle va beaucoup plus loin. Elle dit qu'il y a une dizaine de sens qu'utilisent les animaux, les plus variés, des invertébrés à nos autres mammifères. Ça va des cinq sens classiques jusqu'à la perception des variations du champ magnétique, la perception fine de son propre corps dans l'espace, la perception de sa température corporelle. Donc, en fait, la science montre qu'il y a beaucoup mieux que le sixième sens.
Tiens, comment expliquer qu'un éléphant, que les éléphants aient pressenti l'arrivée du tsunami de 2004 dans l'extrait que nous venons d'entendre?
Là, c'est une pure perception classique. Les éléphants, on l'a montré dans les années 1990, perçoivent les infrasons, c'est-à-dire en dessous de 20 Hz, ce qu'on ne perçoit pas du tout, nous. Et ils sont capables de percevoir les infrasons à une dizaine de kilomètres, donc ils peuvent s'envoyer des messages en douce entre congénères pour aller se rassembler à un point d'eau sans que les humains l'entendent. Et puis, quand l'air est chaud, cette perception des infrasons peut aller jusqu'à 30 kilomètres. Elle se fait pas que par les oreilles, mais par les coussinets élastiques des pattes. Donc évidemment, les infrasons associés aux premières secousses sismiques inaudibles pour les humains, eux, les éléphants les perçoivent. Et ça, on sait très bien ça depuis des temps immémoriaux en Extrême-Orient.
Yolaine de Labine.
Mais c'est vrai que toute la communication par la terre, on est les éléphants qui donnent des coups de pied pour envoyer des messages, des ondes sismiques. On se rend compte aussi que les baleines, en fait, leur chant, c'est pas juste pour séduire ou pour faire joli ou pour chanter au hit parade. Ce sont des ondes incroyables. On sait pas très très bien encore quels sont leurs rôles. Donc ça, c'est assez passionnant. Et il y a quelque chose que je pense que Benoît Grison doit aussi être passionné par ça. C'est tout ce qu'on découvre sur la communication électrique entre les poissons, où là aussi, c'est complètement dingue, ça nous échappe complètement. Donc je pense qu'en effet, sixième sens, c'est un terme sympa pour se rassurer, entre guillemets. Mais je pense qu'ils ont un nombre de sens qui nous échappe et qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, que c'est absolument faramineux.
Benoît Grison.
Oui, en fait, sixième sens, c'est l'aveu d'une ignorance de la part de l'être humain face à la complexité des modes de perception et de communication animaliers. Et de fait, vous avez un certain nombre de poissons, notamment les fameux poissons éléphants qui ont effectivement comme une petite trompe au bout de la tête en Afrique centrale, qui communiquent par signaux électriques. Et puis on sait maintenant que les poissons électriques de l'Amazonie, les fameux gymnotes, anguilles électriques, qui ne sont pas apparentés à l'anguille au demeurant, ne font pas que foudroyer parfois, ça peut être du 860 volts leur proie, mais aussi communiquent. Avec des micro-courants électriques entre eux. Et tout ça commence à être exploré. Après, il faudra comprendre, comme disait scientifique, la sémantique, la signification de ces communications électriques entre poissons.
Bonjour Christophe Hague.
Bonjour Ali, bonjour tout le monde.
Vous êtes enseignant-chercheur en comportement organisationnel, c'est une branche de la psychologie sociale, et vous avez publié chez Michel Lafon, Poulpe, attitude, sous-titré, et si vous aussi vous utilisiez votre intuition pour prendre de bonnes décisions, le poulpe c'est une source d'inspiration, pourquoi le poulpe, Christophe Hague?
Vous en parliez en plus en début d'émission, et ben, il se trouve qu'il y a quelques années j'étais allé voir Jérôme Mourin, qui est conservateur de l'aquarium de Lyon. Et il jouait en fait avec cet animal, notamment avec un poulpe méditerranéen aux cartes. Et j'avais pu voir toutes ses compétences intuitives et les mots-clés qui ressortaient en fait de cette matinée qui était quand même assez extraordinaire parce que vous en prenez plein la tête. C'était mémoire, anticipation, minimisation de la réflexion, perception, émotion, complexité, efficience. Et en fait, tout ce champ lexical, eh bien, il correspond finalement à l'intuition en fait humaine, donc il y a une espèce de biomimétisme qui m'avait pris comme ça, et je me suis intéressé ensuite plus particulièrement à l'intuition humaine et notamment à ce qu'on appelle l'inconscient d'adaptation, qui porte d'ailleurs bien son nom. C'est comment notre cerveau inconsciemment nous permet et automatiquement nous adapter à certaines situations quelquefois inédites en balayant comme ça un environnement et en essayant de chercher des informations très rapidement qui vont nous permettre d'avoir une préférence, qui vont nous permettre de nous aider dans notre décision à un moment où on n'a peut-être pas le temps, on peut pas céder à la réunionite aiguë et où il faut décider dans l'instant. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on commence à décrypter ces phénomènes-là, parce qu'on se dit déjà que c'est quelque chose qui nous drive au quotidien. On est souvent pris dans l'instant. Et quand on va encore un peu plus loin dans cette réflexion, on se rend compte que 90% de nos décisions, notamment nos décisions à enjeu critique, se font de manière intuitive.
Alors vous êtes, Christophe Hague, fasciné par l'intuition du poulpe. Hein. Le poulpe, c'est un céphalopode doté de 8 bras couverts de ventouses et d'un corps musculeux, sans os ni coquille. Il existe environ, je parle sous le contrôle de Benoît Grison, 200 espèces réparties dans les mers et océans du monde. Or, certains considèrent que le poulpe est un cerveau sur pattes. Il est donc doté d'une intelligence pratique qui se met en route ultra rapidement, une intelligence que certains chercheurs nomment intuition. Pouvez-vous nous donner des exemples précis, Christophe Hague?
Oui, alors par exemple, quand il va chasser, quand il cherche de la nourriture, ce qui est assez extraordinaire, même quelquefois quand il va loin, il va pouvoir intuitivement retrouver en fait son habitat. Et donc la mémoire, en fait, c'est vraiment un terme central quand on parle d'intuition. Et là, je rapporte un petit peu ça à l'homme. Plus vous vivez des expériences, notamment émotionnelles, avec un ancrage dans votre mémoire, donc qui reste ancré en vous, comme des photographies qu'on placerait dans un album photo, plus vous allez booster, en fait, votre potentiel intuitif. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, on se rend compte que quand on sort un petit peu de ses zones de confort, qu'on va expérimenter des choses qui nous émotionnent, eh bien, on va épaissir au fil du temps, en fait, cet album photo. Et chaque fois qu'on se retrouvera plus tard face à une situation analogue à quelque chose qu'on a vécu dans le passé, eh ben on va avoir des petits tilts, on peut les appeler comme on veut, et qui vont nous renvoyer à cette photographie-là. Et si vous avez juste 2 minutes, je vais vous raconter une expérience qu'on a menée, on a publié un papier là-dessus, auprès de réalisateurs de cinéma à Hollywood. Et il se trouve qu'on avait un réalisateur, donc je peux pas vous donner le nom, on a signé tout un tas de papiers, mais qui était à mi-tournage confronté à une situation assez extraordinaire, c'est que son actrice principale était démissionnaire. Donc elle avait appelé une limousine qui l'attendait sur un parking lugubre derrière le plateau de tournage. Elle s'apprêtait vraiment à partir. Notre réalisateur est averti de tout ça. Il va la rejoindre. Et donc là, il y a une discussion qui s'ensuit. Donc elle lui vomit un petit peu toute sa haine en lui disant qu'il est incapable, qu'il sait pas gérer ses actrices, que c'est pas normal, que l'actrice secondaire a une loge plus grande que la sienne, etc. Comme quoi, quelquefois, certains stéréotypes sont vrais. Et là, on voit notre réalisateur qui, d'abord, a un petit rictus de satisfaction sur son visage. Et puis ensuite, il se met à lui parler, à la recadrer, et elle reste finalement. Et là, on a voulu comprendre ce qui s'était passé intuitivement dans son esprit. Pourquoi à un moment, alors qu'il se faisait agresser, il a pris une posture qui était aussi offensive et que ça a marché? Parce qu'elle est restée, elle est restée pour tourner toutes les scènes en deuxième moitié de tournage. Et le film a été un succès au box-office mondial. On va le voir quelques semaines plus tard, on dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ?» Il dit « Il y a eu un fait extraordinaire à ce moment-là et c'est pas la première fois que ça se produit. » Il dit « Pendant qu'elle m'agressait, qu'elle me disait que j'étais un incapable, j'ai un souvenir de mon adolescence qui m'est revenu en tête. Et ce souvenir, c'était lorsqu'il avait 14 ans. Il faisait partie d'un des gangs les plus dangereux de Los Angeles. Et un mardi après-midi, il se fait kidnapper, lui et son père, sur l'avenue principale de Los Angeles. Il est retenu dans un petit studio de 25 mètres carrés avec ses geôliers qui, toutes les 15 minutes, pointaient un flingue sur sa tempe. Et là, il dit, c'est fou, parce qu'à ce moment-là, je reçois un autre tilt. Et se souvenait d'une lecture qu'il avait eue dans un magazine de criminologie quelques années plus tard, qui concernait en fait la série Starsky Hutch, pour les auditeurs les plus anciens. Il disait, dans cette chronique-là, dans cet article, était dit que les répliques de Huggy les bons tuyaux à Hutch étaient co-scénarisées par des criminologues, des enquêteurs, etc. Donc il y avait un fond de réel là-dedans. Et il avait retenu une chose, c'était qu'il y avait une réplique de Huggy les bons tuyaux qui était la suivante, c'était à Hutch, il lui disait, tu sais, 9 fois sur 10, quand un type te braque dans la rue, il appuie pas sur la détente. Et donc, alors qu'il était ligoté avec son père, menacé, eh bien, il s'est mis à adopter un comportement de défiance, à insulter ses geôliers, même à leur cracher au visage. Et de manière assez surprenante, au bout de quelques heures, lui et son père furent libérés. Alors, comment ça marche, l'intuition? Eh bien, lorsqu'on se retrouve dans une situation qui est émotionnellement prenante, qui est quelquefois inédite, notre réalisateur, il sait pas, en fait, faire de la rétention des talents, comme on dit en RH, dans les ressources humaines en entreprise, il avait aucune compétence là-dessus. Eh bien, son cerveau intuitif a fait renaître, a fait rejaillir, eh bien, une fameuse photographie de cet album photo. Et en lui disant, écoute, tu sais quoi, adopte le même comportement de défiance que celui du passé et tu vas augmenter tes chances, eh bien, d'arriver à une issue favorable. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, l'intuition et la mémoire sont intimement liés.
Benoît Grison, sur l'intuition du poulpe, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter?
Le poulpe a une perception de son environnement qui est très très complexe, très fine. On sait maintenant qu'il perçoit aussi les couleurs. On s'en doutait un petit peu parce que il exprime ses émotions vis-à-vis de ses congénères avec des changements de couleurs via ses chromatophores, ses pigments en cutané. Bon, mais c'est aussi un être qui a ses limites dans sa perception de l'environnement, c'est-à-dire qu'il est peu sociable, très très peu sociable. Il faut dire que sa mère meurt au moment où elle a pondu. Donc, de fait, notre poulpe a peu de sociabilité, sauf quand on lui fait prendre d'ailleurs une drogue qui facilite aussi la socialisation et le contact humain, à savoir l'ecstasy. On a fait prendre de la MDMA à des poulpes et on s'est rendu compte que les poulpes à ce moment-là étaient beaucoup plus au contact avec leurs congénères. Mais en fait, chez le poulpe, on peut parler surtout de perception de l'environnement. La notion d'intuition, si vous voulez, elle concerne surtout des êtres comme l'être humain et certains primates ou certains cétacés dont on sait qu'ils ont une conscience, la conscience de leur processus. Et à ce moment-là, il est très coûteux pour l'évolution d'avoir conscience de tout ce qui se passe dans notre système cognitif. Donc, la majeure partie des décisions et des perceptions sont faites sans que nous en ayons conscience, nous primates ou nos cousins à lointains et marins, les cétacés. Bon, par exemple, Benjamin Libet, qui est un neuroscientifique connu, a montré que quand on fait des enregistrements cérébraux et qu'on demande à des sujets face à des petits problèmes à résoudre en laboratoire de prendre une décision, eh bien, on voit les signaux électriques de la prise de décision quelques millisecondes avant que la personne dise « ça y est, j'ai décidé ». C'est-à-dire, on a pris notre décision avant d'en avoir conscience. Vous voyez ? Voilà. Donc, en fait, l'intuition, ça recouvre des phénomènes perceptifs et cognitifs mentaux qui sont pas conscientisés par certains organismes qui sont capables de conscience. Alors, est-ce que le poulpe a une conscience de lui-même? C'est difficile à dire pour l'instant.
Yolaine Delabille.
Mais juste sur le poulpe, moi, il y a deux choses que je trouve fascinantes. C'est que justement, Benoît vient de le dire, c'est que la maman meurt et donc on se demande quand même comment des animaux aussi intelligents apprennent, puisque les bébés ne voient rien. Donc il y a ça, c'est quand même un truc fascinant. Et il y en a une qui moi me fascine, c'est la pieuvre mimétique qui a été découverte il y a une vingtaine d'années en Australie et qui, alors on sait que la pieuvre, le poulpe sont capables de mimétisme extraordinaire. Elle est capable, pour l'instant, on a vu à peu près 18 animaux, il y en a sans doute plus. Elle est capable de se déguiser, de se transformer en un animal qui est un prédateur pour sauver sa peau. En gros, elle voit arriver un animal en demi-seconde, elle va comprendre cet animal, quel est le prédateur de cet animal pour lui faire peur, et elle va réussir à se déguiser dans cet animal, en anguille, en scarcasque, etc. C'est quand même complètement dingue. Ça, si c'est pas une preuve d'adaptabilité et d'intelligence suprême, non.
Oui, je suis d'accord avec vous, Yolaine Delavigne.
Alors, vive les poulpes.
Vive les poulpes. Dans le Robert, l'intuition, c'est la forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, et c'est le sentiment ou la conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. Le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman écrit que la pensée intuitive est une affaire de perception. Elle se caractérise par un sentiment d'aisance et de rapidité. Et selon Daniel Kahneman, nous sommes donc dotés de deux modes de pensée, un système rapide et intuitif, mais davantage sujet à l'erreur, et un second système, plus lent et gouverné par la réflexion. Christophe Hague, au cours de l'évolution, heureusement que nous étions dotés d'un système de pensée rapide et intuitif. Hein.
Oui, et d'ailleurs vous aviez Henri Bernstein à propos de la célérité de ce processus qui disait que l'intuition c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse.
Oui.
Donc effectivement, et d'ailleurs je pense que c'est important de la réhabiliter aujourd'hui parce que on vit dans un monde qui est très émotionnel, qui est très dans l'urgence, avec des zones d'incertitude qui sont très larges, des timings qui sont de plus en plus serrés, que ce soit dans ses vies personnelles, professionnelles. On veut, pour beaucoup, quand on comprend qu'on a un CDD de vie sur cette petite boule bleue, ben on veut bouffer absolument cette vie, quoi. On veut la dévorer. Et donc on est sur cette urgence-là. Et quand on a l'urgence qui toque à notre porte, eh bien on n'a pas tout le temps de maturer tout ça. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez important en fait de la considérer parce que souvent elle vous donne au moins une piste. Moi je la compare souvent à une espèce de GPS intérieur qui est comparable finalement à Waze, hein, qu'on a tous sur nos téléphones quand on est un petit peu perdu en voiture et qui est plutôt fiable. Et le principe de Waze c'est quoi? C'est que les informations elles sont remontées par le terrain, par les utilisateurs. Donc il y a ce côté très pragmatique qu'on retrouve aussi dans l'intuition et à nouveau par rapport à ce que je vous disais précédemment sur la mémoire, sur le fait grâce à nos petits neurones miroirs, de photographier tout un tas d'événements de vie, de les classer dans cet album photo, eh bien tout ça est extrêmement aidant. Et c'est vrai que cette rapidité, quand on comprend la puissance du processus, on pourrait commencer un petit peu à se faire un peu plus confiance. Il y a des chercheurs à Harvard, par exemple, qui vous ont montré qu'il suffit de 39 millièmes de seconde, c'est extrêmement rapide, pour déterminer avec une fiabilité assez remarquable le niveau de dangerosité, soit physique, soit psychologique, de la personne qui est face à vous. En 40 millièmes de seconde, ça c'est Nicolas Roule qui le montrait, on peut déterminer l'orientation sexuelle de quelqu'un. Et à nouveau, en sachant sans savoir. C'est vraiment quelque chose d'assez inconscient. Et on est aujourd'hui capable de tracer en fait les processus de l'intuition qui est finalement une intelligence.
Oui.
Une intelligence inconsciente. On sait comment ça se produit en partie grâce à des tracés et grâce à tout un tas d'outils sophistiqués. Il y a notamment une expérience récente qui montrait que, et qui a été refaite, lorsqu'on demande à des personnes de résoudre des anagrammes, ben on voit que la personne qui prend du temps, etc., l'analytique, ben va par exemple activer davantage son cortex préfrontal gauche, alors que l'intuitif, lui, va privilégier le cortex postérieur droit. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui nous amènent à une conclusion.
Et oui. Je précise que certains chercheurs estiment qu'il n'existe pas deux systèmes de pensée, réflexif et intuitif, mais qu'il existe un continuum, une continuité entre l'intuition et la pensée consciente. Alors on continue à discuter de tout cela juste après le disque. Je vous propose d'écouter Métronomie, Love Letters.
they fly from you to me. But still I get no sleep. Oh, my love, don't be mad. Cause I'll keep on writing.
Métronomie interprétée Love Letters.
Bon, allez, Didier, maintenant maman va travailler. Mais elle revient vite. Alors tu as un bon chien pendant 10 jours.
Grand bien vous fasse.
Ne lui dis pas combien de temps tu pars.
Mais non, les chiens, ça n'a aucune notion du temps.
Un an, c'est 7 ans pour un chien. Alors 10 jours, fais le calcul, il va être malade maintenant.
Sur France Inter.
Sommes-nous dotés d'un sixième sens comme les animaux? C'est notre sujet ce matin.
J'ai pleuré, j'arrivais pas à y croire. Comme dans un conte, il y a un côté mystérieux.
Ce chat, c'est Cookie. En 2014, il a traversé la France du sud au nord, soit 1000 km en 18 semaines, pour retrouver sa maîtresse. Ce type d'odyssée incroyable est médiatisé dès les années 80. Pour ce vétérinaire, le doute n'est pas permis. Les chiens possèdent des capacités biologiques hyper développées.
Le chien a cette particularité d'arriver à repérer une odeur particulière. C'est donc ce premier sens, l'odorat, qui permet au chien de repérer, même à grande distance, ses maîtres.
Mais d'autres chercheurs vont plus loin. En 1996, Rupert Sheldrake, un biologiste anglais, avance une autre hypothèse. Une connexion relierait l'animal à son maître.
Regardez, en bas de l'image, l'heure tourne. Et lorsque Pam Smart décide de rentrer chez elle, son chien JT, à plusieurs kilomètres de là, et quasiment à la seconde près, réagit, se lève et s'approche de la porte d'entrée.
Ce qu'il reste de cette expérience, c'est une relation invisible que la science n'a pas encore expliquée. Appelez ça comme vous voulez, télépathie, lien psychique, sixième sens. Moi, je l'appelle un champ morphique.
Alors, on vient d'entendre le très controversé biochimiste Rupert Sheldrake qui parle de champ morphique. Il faut savoir qu'il est également parapsychologue. Benoît Grison, je rappelle que vous êtes docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences. Réaction à ce que l'on vient d'entendre.
Rupert Sheldrake, c'est quelqu'un effectivement qui a tendance à beaucoup spéculer sur des phénomènes qui sont pas encore bien expliqués en éthologie et sciences cognitives, ces animaux qui retrouvent leur chemin sur des centaines de kilomètres. Et quand il propose l'hypothèse de champ morphique, et ben comme on aurait dit du temps de Molière, c'est une vertu dormitive. C'est un mot qui n'explique rien. Bon, donc, si on était gentil, on dirait c'est juste le fait de pointer un problème. Mais on résout pas un problème en science comme dans la médecine du temps de Molière en créant un mot compliqué qui ne donne aucune explication des phénomènes qu'on veut comprendre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le chien, le chat font des cartes mentales de leur environnement, sont capables de mémoriser des trajets complexes. Déjà, au quotidien, quand vous promenez votre chien qu'il a l'habitude de certains parcours, il a tendance à vouloir tirer sur la laisse alors que d'habitude il ne tire pas pour corriger le parcours atypique que vous lui faisiez prendre, que vous lui faites prendre ce matin-là. Bon, d'autre part, les cartes cognitives des chats et des chiens qui sont des animaux à odorat hyper développé, la surface de la muqueuse olfactive d'un chien, c'est 20 fois plus, si vous voulez, que la surface de la muqueuse olfactive. Ces cartes cognitives peuvent intégrer différentes données sensorielles, pas seulement visuelles, mais olfactives. Et il n'est pas impossible que le chat et le chien soient sensibles à des variations de champ magnétique terrestre. On le soupçonne aussi chez le renard dans la nature, qui trouverait par exemple en hiver certaines petites proies des campagnols sous la neige grâce à une sensibilité aux variations des champs magnétiques. Mais pour l'instant, tout ça, ce sont que des hypothèses. Mais il ne faut surtout pas substituer aux zones d'ignorance en science des fausses explications comme Rupert Sheldrake. Ce qui est sûr, c'est que les grands parcours des chats et des chiens pour retrouver leur maître ou leur maîtresse ont intrigué les scientifiques depuis le 19e siècle.
Christophe Haag, je rappelle que vous êtes enseignant et chercheur en psychologie sociale.
Oui, alors pour le lien entre l'homme et l'animal, et notamment le chien, il y a un phénomène qui se produit qu'on appelle la contagion animale. Donc il y a un transfert des émotions, il y a tout un tas d'expériences assez intéressantes qui montrent que quand le maître joue avec son chien, et lui et son animal de compagnie vont produire par exemple de l'ocytocine en assez grande quantité, bon, c'est le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères. Et donc il y a ce transfert-là. Alors, on sait que le chien peut reconnaître aussi certaines expressions faciales et expressives des émotions chez l'homme. Donc il y a cette contagion émotionnelle, ce filet, cette espèce de couloir aussi qui s'ouvre entre les deux.
Yolaine Deladigne.
Je rajouterais aussi que on commence quand même à accepter que les animaux ont des stratégies et réfléchissent aussi aux choses, parce qu'on avait toujours l'impression qu'on était les seuls à réfléchir et que les autres c'était que de l'instinct, etc., de l'émotion. Et je donnerai un exemple que j'adore, les cochons. Vous savez, moi j'aime bien les animaux mal aimés. Alors s'il y en a bien un qui est mal aimé, martyrisé, coupé en saucisson, etc., c'est bien le cochon. Or il est particulièrement intelligent. Il y a un petit cochon nain en Pennsylvanie qui est devenu, c'est une femelle, s'appelle Lulu. Son humaine, on l'appelle comme on veut, a une crise cardiaque. Elle panique, elle arrive à sortir par la trappe du chien, elle arrive sur la route, elle se met en travers des voitures qui essayent de l'éviter, elle arrive à faire enfin arrêter une voiture, elle groigne, je sais pas comment on fait pour un cochon, bref, elle s'agite, elle arrive à attirer un monsieur dans la maison et elle a sauvé son humaine comme ça. Là, on va pas
c'est
me dire
une histoire
que
c'est, vraie, ça, ah, c'est pas tiré vraie. Du,
alors là, elle est très
du
connue,
film Babe.
Elle est très connue aux États-Unis, en Pennsylvanie. Voilà, ça montre bien quand même qu'elle a réfléchi, la petite cochonne. Donc elle était quand même vachement maligne. Il n'y avait pas que de l'instinct.
Quand je ne sais plus rien, une douce musique revient. Elle arrive très loin. Ah, ma chaloupe, ma ta copine, sous le ciel cabine.
Liberté, 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 liberté.
C'était Yeli Yeli, Liberté. Sommes-nous dotés d'un sixième sens comme les animaux ? C'est notre sujet ce matin.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Bonjour François, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez du Mont-Saint-Aignan.
Oui, exact, oui.
Et vous êtes ancien combattant ?
Non, oui, je suis ancien combattant, effectivement, mais mon histoire ne relève pas de cet état d'ancien combattant.
Alors racontez-nous, François. Alors,
parce que je suis né en 38 et donc mes parents sont partis en exode, et bien sûr moi avec, puisque j'étais le quatrième enfant. Et mes parents avaient un ami qui avait une voiture automobile et qui vient voir mon père, dit « bon, je pars en exode avec ma voiture automobile, mais j'ai une jument qui est là, si tu la prends pas... » Excuse-moi, j'ai un peu l'émotion. Elle va mourir. Donc on est parti avec cette jument, attelée à un tombereau. Mon père avait aménagé ce tombereau avec des bâches, des matelas, etc. Mais cette jument ne marchait pas au guide, il fallait marcher à côté d'elle. Et quand on a fait à peu près 300 à 400 kilomètres, je ne sais pas trop, et quand on était sur le retour, la jument certainement très fatiguée, mais avec son tombereau attelé derrière elle, arrivée donc à peu près à 2 km de chez elle, elle s'est mise à galoper. Mmh. Donc c'était quand même. Oui.
Dites-lui que vous êtes en direct sur France Inter.
Mais oui.
Et en tout cas, vous nous avez raconté ça au standard. Cette jument est revenue sur son lieu de naissance, c'est ça ?
Et n'a plus voulu. Sur son lieu d'habitation.
Voilà, d'habitation.
Et quand on est alors petit incident. Quand on est parce que on habitait dans un petit village, il fallait dépasser sa barrière pour rentrer jusqu'à chez nous. Et quand on est quand nous sommes passés devant sa barrière, elle s'est arrêtée et n'a plus voulu repartir. Mmh.
Hmm. Tiens, comment ça s'explique ça, Benoît Grison, ce que vient de nous raconter François ?
En fait, on n'a pas d'explication définitive à ce sujet. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, les animaux ne sont pas tous des êtres innés d'instinct, comme on le disait autrefois. Mmh. On commence à savoir qu'ils ont des mémoires, une mémoire complexe et de type événementiel de certains épisodes de leur vie. Ils sont capables d'intégrer des cartes mentales complexes sur leur parcours quotidien ou sur éventuellement leur lieu d'habitation. Ben, vous savez que, par exemple, les grenouilles, ce qui pose beaucoup de problèmes d'un point de vue environnemental, reviennent pondre sur le lieu où elles sont sorties de l'œuf. Et on ne sait pas encore comment elles construisent leur carte mentale multimodale, c'est-à-dire basée sur différentes modalités sensorielles pour retrouver leur mare de naissance quand elle existe encore, quand elle n'a pas été bétonnée. On sait qu'il y a peut-être des repères astronomiques et sans doute une sensibilité aux variations du champ magnétique terrestre. Donc il y a encore plein de choses à découvrir en fait sur la cognition et la perception animale.
Merci beaucoup François de nous avoir appelé. Il est temps de retrouver la chronique « Ma vie de parent » de Gonaël Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas ?
Salut !
Merde !
Alors, Gonaël Boulay, vous avez décidé de faire peur à tous les parents. Quelle drôle d'idée !
Oui, enfin non, justement, vous me connaissez maintenant. J'ai plutôt décidé de détendre tout le monde, enfin d'essayer en tout cas.
Et à propos de quoi ?
Eh bien, chers parents, je sais pas vous, mais moi, il y a des livres de parentalité que je me suis toujours refusé d'ouvrir. Il y en a un en particulier qu'on voit partout quand on est jeune parent, c'est « Tout se joue avant 6 ans » du docteur Dodson. C'est un bouquin des années 70, un best-seller mondial de l'éducation, comme il est écrit sur la couverture, réédité moult fois et qui se vend comme des petits pains. Et même que depuis, il y a des petits malins qui en ont fait une version « Tout se joue avant 3 ans » et même « Tout se joue avant la naissance ».
Et alors, qu'est-ce qu'il a de si effrayant, ce livre, Gonaël ?
Alors, pas de méprise, hein. Je suis persuadée que ce livre de psychologie infantile est parfaitement respectable, rempli d'éléments très pertinents, cliniquement étayés et tout, sur les différentes étapes du développement de la petite enfance. Mais, non mais sans rire, quoi. Tout se joue avant 6 ans. Vous voyez un peu le tableau ? Vous avez déjà passé 9 mois de grossesse à vous demander entre deux nausées, une interdiction de fromage au lait cru et 18 kilos en trop si vous êtes vraiment capable d'être une bonne mère. Vous avez courageusement passé l'épisode de l'accouchement, des montées de lait et autres joyeuseries que je vous passe aujourd'hui. Autant dire que votre couple est en mode survie au niveau du sommeil et que vous n'avez pas une seule minute à consacrer à la lecture d'un ouvrage d'éducation. Et là, boum, vous tombez sur ce titre. Alors pour moi, tout se joue avant 6 ans, c'est la double peine assurée. Hein. Du type, t'as fait un baby blues, t'as pleuré pendant tout ton congé mat, bah, en plus, déjà t'as passé un bien sale moment et en plus t'as bousillé la vie de ton môme. Ou bien, t'as craqué, t'as crié sur ton enfant, pire, il y a une fessée qui est malencontreusement partie. Alors non seulement t'en éprouves une culpabilité terrible, mais en plus, sache que t'as bousillé la vie de ton môme. Pas aujourd'hui, pas demain, non, à tout jamais. Bref, pour moi, ce titre, c'est un peu comme si on vous disait « Bon, bah côté couple, c'est simple, tout se joue premier soir. Hein. » Donc, ce qui signifie que si vous ressortez avec votre premier rencard avec un petit bout de persil entre les dents, ben c'est mort. Ou ben, c'est comme si vous commencez vos chroniques sur France Inter et qu'un ami bienveillant vous dit « C'est simple, les chroniques, tout se joue dans les quatre premières. » Vous voyez bien, ça détend, ça met en confiance, n'est-ce pas ?
Et vous en êtes à la troisième, hein, c'est ça hein ?
Quatrième.
Bon, alors c'est sûr, Gwenaëlle, tout ça est bien joli, mais sur le fond, tout se joue-t-il avant 6 ans ?
Bon, bah oui et non. En fait, pour faire court, oui, c'est vrai, on va pas se mentir, il y a pas mal de choses qui s'installent dans la toute petite enfance, en particulier sur le plan affectif et cognitif. C'est là que le cerveau est le plus réceptif aux stimuli, développement des milliards de connexions en très peu de temps. C'est là que la plasticité du cerveau est la plus grande, là que la sécurité intérieure et la confiance se construisent. Et ce qui est certain, c'est que les relations affectives nouées dans les toutes premières années laissent une empreinte essentielle qui influencera nos relations adultes. Tout ça est très juste, très prouvé. Mais fort heureusement pour nous, notre existence est un processus en perpétuelle transformation. Les événements, heureux ou douloureux, les rencontres, les crises, les expériences spirituelles, la réflexion intellectuelle, façonnent notre être tout au long des années. Et ce que nombre de chercheurs ont appelé la résilience désigne ainsi la capacité d'un être humain à surmonter des difficultés liées à un traumatisme, à vivre, à se construire malgré des débuts difficiles, voire chaotiques. Car si tout se jouait vraiment avant 6 ans, pourquoi se fatiguer à lutter ? Il suffirait de se laisser porter passivement par les événements et de déclarer forfait pour les plus malchanceux d'entre nous. Du coup, moi, en tant que parent, je me suis plutôt partie sur quelque chose du genre « tout se construit petit à petit et rien n'est joué jusqu'à la fin ». Après tout, je trouve que ça laisse davantage de place à nos erreurs, à nos imperfections, à nos failles, à nos fragilités. À moins que, attendez, maintenant que les miens ont passé l'âge fatidique des 6 ans... Si tout est joué, je peux peut-être me détendre un peu et opter pour une éducation décomplexée et totalement freestyle. Et finalement, à bien y réfléchir, il est peut-être pas si mauvais ce titre.
Gwenaëlle Boulet, tous les mercredis avec Ma vie de parent, vous pouvez podcaster et partager cette chronique. Alors que vous soyez parents, grands-parents, beaux-parents, futurs parents, n'hésitez pas à écrire à Gwenaëlle Boulet pour réagir et partager vos propres expériences de parentalité sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et par mail à l'adresse Gwenaëlle avec deux L, .boulet, B-O-U-L-E-T, @radiofrance.com.
70 au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attarde. Envie déçue ou amour fou. Mes idéaux qui me lâchent. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te voit. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Si seulement ça faisait envie de les voir faire n'importe quoi. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache. Là dans mon cou, tu es revenu. Y'a ma raison qui me lâche. Si je ne t'appelle pas, je te rêve l'après-midi, je te cherche dans. draps où ta pâle mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passera pas. Même si je ne t'appelle pas, mélancolie, je te cherche à travers les draps. Dans les yeux, une casquette de ciel enfoncé, on se croira toujours heureux. Nos cœurs sont pourtant gris foncé. Je dors pour rêver un peu, pour qu'on vienne me réveiller. Les étoiles que j'ai dans les yeux ne sont pas des lunes accrochées. Je sors le soir avec ma lady, elle porte lunettes et traits d'esprit. Des dollars plutôt que du brandy, c'est des faux espoirs qu'elle vous brandit. Vous l'avez tous aimé, mon ami. Elle vous rend visite toutes les nuits. Je voudrais pourtant qu'elle me quitte et que de mes peines je m'acquitte. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps où ta pâle mélancolie. Tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passera pas.
C'était PR2B, Mélancolie.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
Sommes-nous dotés d'un sixième sens, comme les animaux? Ce sixième sens, que l'on appelle parfois intuition, pressentiment, Christophe Hax, c'est la même chose, l'intuition, pressentiment
En fait, c'est une question de dictionnaire, j'allais dire, voilà, ou de termes qui sont utilisés. Mais en science, en tout cas, et en science cognitive, on préfère souvent parler, voilà, d'inconscient d'adaptation, d'intuition. Et aujourd'hui, on en voit tout le pouvoir, en fait. Y a des chercheurs néerlandais qui sont arrivés à cette conclusion que moi j'adore, et qui est la suivante, c'est plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir. Au sens traditionnel du terme. Donc, lorsque vous êtes soumis à une trop grande quantité d'informations, que vous êtes face à un choix qui est difficile avec un grand nombre de critères, et ben derrière, ne tergiversez pas, cherchez pas midi à 14h. Et voilà, parce que souvent, en fait, quand à trop réfléchir, en fait, on s'éloigne de nos vraies préférences. Ça, c'est aussi une expérience assez sympathique sur des pots de confiture et sur ce qu'on aime, en fait. Donc, il y a plein de choses intéressantes. Il y a un boom, en fait, en neurosciences sociale aujourd'hui sur cette thématique. Et en gros, ben, l'intuition, on sait aujourd'hui, pour résumer la chose, que c'est pas magique. Vous avez tout un tas de processus cognitifs hautement sophistiqués qui sont mis en œuvre. C'est pas un réflexe non plus. Parce que, voilà, d'un point de vue neurologique, un réflexe, c'est une simple réponse neuromusculaire. Mais voilà, on gagnera à se faire un peu plus confiance et à suivre un petit peu plus l'instantanéité de nos préférences.
Et vous comparez, Christophe Hague, l'intuition à un tambour intérieur sous l'impact d'informations envoyées par son environnement. Ce tambour intérieur produit un son, une vibration, une impulsion. Et tout au long de notre vie, nos expériences laissent une empreinte sur ce tambour intérieur. Et vous illustrez ceci dans votre livre avec l'exemple de la tentative d'assassinat contre Jacques Chirac le 14 juillet 2002, Mohamed Chelali, qui sauva le président de la tentative d'attentat de l'extrémiste Maxime Brunnery, il avait senti quelque chose de louche qui se passait, et vous écrivez que c'est l'inconscient d'adaptation de Mohamed Chelali qui s'est exprimé. Cet inconscient d'adaptation qui s'est appuyé sur un balayage superficiel. Expliquez-nous en quelques mots, c'est très intéressant et très concret.
C'est comme si vous faisiez un scan très rapide de votre environnement, de ce qui est autour de vous. Et là, vous allez, et donc c'est des capacités de perception, vous allez repérer ce qu'on appelle des signaux faibles, des choses qui sont quelquefois extrêmement compliquées à conscientiser, et votre cerveau les capte. Et en captant ces signaux-là, et bien derrière, il va se construire une histoire, il va pouvoir anticiper. Et donc là, effectivement, vous avez un étui, ou comme quand on voit dans un film, vous savez, la personne qui est en train de mettre la main à l'intérieur de son blouson et qui s'apprête à dégainer, et bien là, il y avait ce type de perception-là en anticipation. Donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement fin, sur une mécanique qui est extrêmement bien huilée et qui est capable de repérer des choses quasi imperceptibles consciemment. Et c'est grâce à ça que derrière, on peut agir, anticiper et devancer, en fait. En étant dans ce registre de l'intuition, on devient une sorte de futurologue De ce qui va se passer.
Yolaine de la Bigne.
Je crois aussi que l'intuition, ça se travaille. Justement, c'est là où les animaux nous donnent des bonnes leçons. On a oublié de sentir. On sent plus renifler les choses, les sentir, regarder. Souvent, on est là avec nos iPhones à courir. Ça. On n'arrive plus à regarder, écouter. Juste fermer les yeux, écouter ce qui se passe autour de nous. Donc, je pense qu'en le travaillant, on reprend cette fameuse intuition qui permet aux animaux aussi d'avoir le fameux sixième sens.
Benoît Grison, comment s'inspirer des animaux pour cultiver ce sixième sens qu'on appelle l'intuition, en tout cas chez nous autres humains.
Le problème pour nous, êtres humains, c'est que précisément on est trop conscient des processus et que finalement, il y a tout un inconscient cognitif qui n'a rien à voir avec l'inconscient freudien, qui fonctionne très bien, qu'il faudrait parfois laisser fonctionner. Parfois, je dirais, parce que je ne vais pas non plus faire une hagiographie de l'intuition, parce que comme le montre bien Daniel Kahneman, le prix Nobel, c'est des stratégies adaptatives mentales et de raisonnement rapide qui nous permettent de réagir vite, mais de manière approximative. Et parfois, l'intuition nous mène à l'erreur. Par contre, les travaux de sciences cognitives montrent bien que chez les grands experts, l'intuition est souvent juste parce que tellement nourrie par l'expérience, par une grande quantité d'expérience. Et on sait très bien qu'en arts martiaux, les grands maîtres d'arts martiaux, c'est un classique, disent « je ne réfléchis plus beaucoup quand je réagis à l'adversaire ». Mais ça, ça prend des années de polir son intuition et de faire en sorte que ce système rapide, pour reprendre le terme de Kahneman, ne soit pas quelque chose qui parfois nous amène à une impasse ou à des erreurs. Parce que c'est pas une panacée, l'intuition.
Tiens, vous pouvez lire de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, qui est disponible en poche chez Flammarion. En quelques mots rapides, Benoît Grison, Paul nous demande si l'intuition, c'est la même chose que l'instinct animal. En quelques mots, intuition et instinct animal.
Non, parce que l'instinct animal, c'est pareil une catégorie qui traduisait l'ignorance des chercheurs autrefois. On ramenait tout à des mécanismes innés chez les animaux, alors qu'en fait, l'intuition se nourrit d'apprentissage et d'apprentissage implicite dont on n'a pas toujours conscience. Donc, c'est pas du tout, ça n'a pas de lien avec l'innéité, avec des comportements automatiques.
Merci à tous d'être venus dans ce studio. Vous pouvez bien sûr retrouver toute la bibliographie sur le site et sur l'appli France Inter. Demain, comment Montaigne peut nous aider à vivre?